Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc. comme inclusion, Inc. comme incorporé, qui réfère aux entreprises ou aux organisations. Qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale, les entreprises ont un rôle à jouer comme milieu d'accueil. Cette semaine, pour notre épisode, nous recevons une toute jeune entreprise qui offre des conseils aux entreprises, justement, en matière d'inclusion et qui a choisi notamment l'angle de la neurodiversité. Ces gens qui sont souvent vus en entreprise comme des bébites rares qu'il faut tenter de décrypter. Et une fois qu'on les a bien décryptés, ils peuvent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, c'est un plaisir de recevoir en studio et avec nous sur YouTube, les deux co-fondatrices, Mélissa Saint-Louis et Fran Deloum. Bonjour!
Bonjour!
Vous avez sourcillé à bibitte rare.
Non, au contraire, ça a longtemps été ce que je m'auto-attribuais, bibitte. Ah oui? Bibitte analytique, c'est souvent comme ça que je me décris. J'étais juste comme, ah, je suis pas seule!
Excuse-moi, comme un totem de scout, la bibitte analytique.
Quasiment.
Comment vous en êtes venu justement à choisir? Bon, vous dites sur votre site Internet un prisme de traitement, je dis un angle un peu, parce que, bon, on a reçu plusieurs entreprises qui parlent de diversité, d'inclusion, mais c'est la première fois spécifiquement qu'on touche la neurodiversité et c'est vraiment, un sujet qui me touche beaucoup, qui m'interpelle. Donc, comment c'est venu que vous décidiez d'occuper ce créneau?
Mm-hmm. Tu veux que je commence? Ben oui. Tu sais, dans le fond, il y avait ce besoin-là sur le marché où ce qu'on n'avait pas cette information-là, précisément au Québec, là, au moment où on a commencé, l'information se faisait maigre, surtout en français. Puis, c'est ça, tu sais, de venir prendre sa place dans le domaine de l'équité, de la diversité, de l'inclusion. Mm. Je pense que c'est important de venir aussi avec une posture de vécu expérientiel, oui. Autant qu'on vient avec une posture aussi de connaissances académiques ou de connaissances scientifiques à travers tout ça, parce que ça a une richesse, ce savoir-là, puis ça permet de parler d'expertise et d'expérience avec plus de nuances dans certains cas. Donc, pour cette raison-là, de prendre la neuro-inclusion comme prise de traitement, bien, ça nous permet d'en parler, de l'inclusion, de façon générale, en ce sens où, oui, on va avoir une approche universelle. Puis la neurodiversité, bien, c'est tout le monde, puis on pourra le définir. Mais comme c'est tout le monde, il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place qui vont venir aider, par exemple, un nouveau parent qui a un bébé qui ne fait pas ses nuits, puis qui a mm-hmm. les deux yeux dans le même trou le matin. Ça peut ressembler beaucoup à peut-être quelqu'un qui aurait un TDAH dans certaines manifestations, tu sais, ou une personne en francisation qui apprend le français, qui doit décrypter des procédures, des processus en milieu de travail, qui ont l'air d'une soupe alphabète. Bien, c'est bon pour ces personnes-là, tout comme c'est bon pour une personne qui pourrait avoir une dyslexie, là, par exemple. Fait que cette prise de traitement-là vient faire d'une pierre plusieurs coups. Puis, c'est ça. Donc, comme je dis, c'est important d'avoir cette lentille-là de vécu expérientiel.
Ben oui, c'est ça. Donc, ce que tu dis un peu entre les lignes, c'est que nous avons un vécu expérientiel.
Oui, parlez-nous de votre vécu expérientiel.
Parce que je réalise qu'on ne l'a pas défini dans ces premières lignes. Donc, la neurodiversité, c'est tout le monde, mais dans le fond, Mélissa et moi, on s'identifie comme des personnes neurodivergentes. Je dis « identifie » parce que le mot « neurodivergent » a une charge symbolique. On peut être à l'aise ou pas à l'aise, il y a une préférence identitaire derrière. Mm-hmm. On a toutes les deux des diagnostics, mais pour nous, de parler de notre neurodivergence, c'était la manière de représenter notre réalité tout en nuances. Donc, comment on en est arrivé là, il y a tout ce que Mélissa a expliqué, mais aussi la vie, je veux dire, moi, le petit bout qui m'appartient, c'est que pendant que j'étais en quête identitaire et en évaluation neuropsychologique, c'était en même temps que je rédigeais mon mémoire sur le sujet de la neuroinclusion des personnes, l'inclusion des personnes neurodivergentes au travail. Donc, ça s'est fait de manière organique et académique en même temps, je ne sais pas trop comment l'expliquer, là, c'était très intertwined, excusez mon français, entremêlé. Mm. J'essaie toujours de traduire mon franglais, donc. Voilà, donc c'est arrivé un peu de fil en aiguille, comme quelque chose d'assez presque naturel dans notre parcours professionnel, tout simplement.
Est-ce que vous avez, d'une certaine manière, créé l'organisation que vous auriez aimé connaître quand vous étiez dans vos quêtes respectives?
Oui, vraiment. On en reparlera, mais dans les services qu'on offre, on cible différentes clientèles, organisations, mais les services qu'on offre aux entrepreneurs et aux entrepreneuses, je confirme qu'on répond potentiellement à un besoin de nous du passé.
Oui. Ouais. Le nom de votre organisation, de votre entreprise, nuance. Sur le coup, je l'avais lu rapidement, puis j'avais lu new sense, nouveau sens, puis en même temps, ça faisait du sens d'une certaine manière. Ouais. Mais j'ai entendu Mélissa justement dire le mot nuance. C'est important pour vous, parce qu'on parle de culture inclusive. C'est quoi la place de la nuance dans tout ça?
C'est vital dans tout ça. Puis, tu sais, on a cherché longtemps un nom. C'est pire qu'à chercher un nom d'enfant, là. Parce qu'il ne faut pas que tu aies le même que quelqu'un d'autre non plus. Hein. Mais on cherchait, puis ça venait vraiment chercher cette essence-là. Puis à chaque fois qu'on dit le mot nuance, on est comme, ceci n'est pas un jeu de mots. C'est juste que ça donne que ça fait partie de chacune de nos discussions qu'on a. Parce que quand on parle de diversité, puis qu'on parle de neurodiversité, bien, on parle aussi d'intersectionnalité. On parle de multiples couches identitaires, de toutes sortes de vécus qui viennent teinter la réalité de la personne. Puis cette réalité-là, bien, quand elle est teintée d'une différente façon, elle va avoir des besoins différents, des manifestations différentes. Fait que c'est important de l'adresser tout en nuance parce qu'on ne peut pas dire « voici le petit moule de personnes TDAH, voici le petit moule de personnes autistes, voici ce petit moule-là » et toutes ces personnes-là, monolithiquement parlant, sont avec les mêmes besoins et les mêmes manifestations. Ce n'est pas le cas.
Exactement. C'est important dans notre approche d'avoir des nuances. L'humain aime beaucoup les certitudes.
Oui.
Le marketing.
Oui.
Le marketing aime les recettes. Donc, il fallait qu'on parle de nuances. Donc, on s'est dit qu'on allait l'assumer de front à travers notre nom. Puis, c'est honnêtement, je regrette jamais ce choix. À chaque jour, je suis comme, c'est tellement nous.
Oui. Mais en même temps, c'est drôle parce que j'ai l'impression, si on parle de petites cases, qu'il y a en ce moment dans la diversité beaucoup trop de cases. T'sais. Je pense juste entre autres à la communauté LGBTSQ2. On dirait que chaque personne veut tellement être nuancée en disant « j'appartiens pas à cette case-là » que là, il y a au contraire, au lieu de dire « c'est simplement un être humain, tout simplement, qui est complexe, avec un portrait riche », bien là, on crée des sous-cases. J'ai comme l'impression que ça va au contraire, puis même, en tout cas, puis c'est vous les spécialistes, je vous parle de ce que je ressens, que pour les gens qui sont moins dans la diversité, que ça devient un peu encore plus complexe d'essayer de comprendre quand on va revendiquer un million de petites cases en disant « bien là, on n'est plus dans l'inclusion ». On est dans l'hyper-spécialisation.
C'est une conversation qui me passionne énormément. Donc, je vais tenter de me réguler là-dedans. Il y a plusieurs morceaux. Premièrement, je suis une femme queer. Je m'identifie souvent comme une personne neuroqueer. Je suis une femme cisgenre, mais queer de pleinement et assumée. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'importance que j'accorde aux mots. Ouais. Les mots ont une charge énorme dans notre identité. Et ça prend des mots pour exister. Donc, il y a cette notion des cases que j'entends, mais elle coexiste avec cette notion des mots. Je comprends que ça puisse faire peur. Je comprends que ça puisse donner l'impression de plus de division, mais je ne crois pas qu'il faille éliminer les mots. Je pense simplement que c'est des conversations qui coexistent. Ouais. Quand on vient à la neurodiversité, ben, c'est sûr qu'on a un héritage médical très important. Donc, on va tomber dans des cases souvent associées à la condition clinique, à la condition diagnostique. Donc, là encore, on a des conversations différentes en même temps. Moi, je tombe dans des petites cases cliniques, mais je m'identifie comme personne neurodivergente parce que dans le quotidien, ben, ça me permet de parler de plus de nuances que si je te dis j'ai tel diagnostic, où là, on risque de regarder mes critères cliniques
de manière plus
décortiquée. Mais je ne crois pas que d'avoir tous ces mots-là crée plus de division. En contrepartie, je suis d'accord qu'on peut parler de diversité sexuelle et de genre pour englober toutes les identités dans toutes leurs nuances, justement, sans tomber dans la petite case. Fait que ça dépend de la fonction. La petite case, elle a-tu rapport, oui ou non, ça dépend dans quel contexte.
Bien, justement, le terme queer, puis je ne sais pas si tous nos auditeurs sont au courant, donc peut-être le définir, mais moi, ça me semble justement un parapluie où on n'a pas justement à dire est-ce que je suis plus ça ou je suis plus ça, est-ce que je peux être les deux? Bien, à la limite, tu ne regardes pas personne, mais il n'y a pas comme une curiosité des gens de vouloir dire
ça m'appartient. C'est souvent ça que je veux dire à ces gens-là. Personnellement, moi, ça a été mon cheminement. Queer m'aidait à arrêter d'essayer de pinpointer quel mot fitait mieux. Puis en plus de ça, c'est fluide, tu t'as pas tente là.
Oui, on est des êtres humains, on grandit, on évolue. Voilà.
Et c'est la même chose pour la neurodivergence, pour amener la conversation sur ce thème-là, parce que pour moi, c'était une façon de moins m'enfarger dans des silos, dans ma représentation de mon identité, mais c'est pas moins valide qu'une personne n'aime pas ce terme-là. Il y a des personnes par rapport à la neurodivergence qui ont préféré une neuroatypique, donc qui vont même dire qu'elles sont neurodiverses alors que c'est un terme qui sémantiquement s'applique plus à un groupe. D'autres qui vont vouloir revendiquer leurs conditions plus neurominoritaires ou leur diagnostic. tout ça cohabite, ça ne me menacera pas.
Ouais.
Mais j'entends, par contre, que ça crée des questions, puis c'est correct. Moi, j'aime bien mieux qu'on s'en parle de ces questions-là, puis qu'on ait des dialogues où on se rejoint dans la discussion, qu'on reste dans... Ben moi, j'aime pas ça, fait que ça finit là, finalement.
Dans quel contexte, justement, dans la neurodiversité, est-ce que les entreprises viennent vers vous parce qu'ils sont curieux ou parce qu'ils ont, par exemple, un employé qu'ils ne comprennent pas? Je donnais l'exemple avant qu'on entre en studio, étant issu de la neurodiversité moi-même, mon cerveau fonctionne en mind mapping. Donc, tout est relié par des liens cartographiés et je ne fonctionne pas en mode linéaire.
L'arborescence.
Mais si je monte ça, par exemple, à ma cliente, elle me dit « mais je ne comprends rien ». Là, il faut que je fasse un effort. Moi, il faut que je fasse l'effort de traduire ça en mode linéaire pour que son cerveau, qui est plus majoritaire, comprenne. Et souvent, je me dis « j'aimerais ça qu'on fasse aussi l'effort de comprendre comment mon cerveau fonctionne ». Donc, est-ce que ça vient plus dans une volonté... on a un employé qu'on ne comprend pas ou on se dit, bien, la pénurie de main-d'œuvre étant là, on peut peut-être s'ouvrir à différents types de profils?
Il y a un peu de tout ça dans la réponse, dans le sens où il y en a qui vont nous appeler parce que, on commence à en entendre parler, il me semble que ça serait le fun de donner une formation là-dessus. Bon, quand c'est juste le fun, je me dis, on va parler de choses inconfortables, on va parler d'enjeux au niveau de discrimination puis au niveau aussi historique de trauma au niveau historique. Fait que c'est pas une formation qui est sur des sujets « le fun », en gros guillemets, même si on l'anime de façon très plaisante, le fun, tout ça, on s'assure que ça se passe bien, puis que tout le monde ait beaucoup de plaisir, parce qu'on apprend quand on rit généralement, mais ça reste quand même que c'est un sujet qui a son lot historique. Après ça, on a des personnes, qui peuvent nous contacter parce que vivent des enjeux avec une personne employée dans leur équipe, puis là, ils vont dire « je sais pas quoi faire, je sais pas par où le prendre ». Il y en a qui vont, des personnes qui vont nous appeler parce que justement vont être elles-mêmes neurodivergentes, vont chercher des réponses, vont chercher de l'accompagnement. Donc, dans des cas comme ça, on va essayer de voir, est-ce que l'employeur peut le mettre, par exemple, sur ton plan de développement? Est-ce qu'il y a une ouverture à te dévoiler ou non? Fait que c'est toutes sortes de discussions qu'on peut avoir à travers ça, qui peuvent émaner de toutes sortes de sources. Mais ça reste un sujet quand même récent, tu sais, puis récent au Québec, récent dans la francophonie aussi, on en parle plus. Là, on commence à avoir moins de différence, mais quand on donnait la formation en anglais et en français à travers le Canada, en anglais, les gens se donnaient des notes plus élevées sur leur niveau de « je sais de quoi qu'on parle quand on parle de neurodiversité, mettons de 1 à 5 ». J'avais plus des 3, des 4, des 5, puis en français, j'avais plus des 1 puis des 2.
Vous l'expliquez comment?
Il y a plus de littérature et de documentation disponible en anglais. L'Angleterre a un très grand pas d'avance sur le sujet. Fait que même nous, beaucoup de notre littérature vient de l'Angleterre. Il y a encore peu de documentation ici au Canada. Quoi qu'il commence à en avoir, puis il commence à en avoir de la très belle. Donc, tout ça nous amène à comprendre que, au Québec, c'est d'autant plus émergent. Puis ça ouvre ces conversations-là avec grande curiosité. Fait qu'on en profite justement pour parler d'une approche universelle, de parler d'intersectionnalité, parce que si je parle de neuro-inclusion, puis là, je dis « OK, parfait, maintenant, je me sens ouvert, inclusif par rapport aux personnes autistes, aux personnes TDAH, mais il ne faudrait surtout pas que la personne, elle soit autre chose, parce que là, ça, je suis pas ouvert. »
Ouais.
Ça marche comme pas.
C'est quoi? C'est un peu trop... Parce que là, justement, on parle d'intersectionnalité, mais même en neurodiversité, là, on a les twice, où là... Puis là, c'est complexe. Mettons une douance avec un TDAH. Qu'est-ce qui couvre quoi? Puis là, on rentre effectivement dans le diagnostic et autres, mais ça demande, dans l'effort, d'essayer de comprendre pour l'employeur, beaucoup de générosité, de vraiment vouloir comprendre. Puis en même temps, c'est de l'adaptation. Après, comment on fait pour adapter les manières de travailler?
C'est ça. Puis même, tu sais, au niveau de l'intersectionnalité, justement, si on peut avoir des surreprésentations au niveau des communautés, de la communauté LGBTQ+, donc les personnes queer, personnes trans, qui sont aussi autistes, fait qu'il y a une plus grande prévalence. Fait justement, d'assurer la sécurité de ces personnes-là. Si elles se dévoilent comme étant neurodivergentes et comme étant, par exemple, trans, mais tu sais, est-ce qu'elles vont recevoir le même accueil que si c'était une personne cis au sein de l'organisation? Ça fait partie des discussions aussi.
Oui. Juste peut-être pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire cis?
Oui, ça, je réalise qu'il y a beaucoup de termes qu'on n'a pas définis. Au-delà du cis, là, il y a même tous les termes de la neurodiversité qu'on n'a pas tant définis. Mais donc, être une personne cisgenre, donc, c'est de s'identifier au genre qui nous a été assigné à la naissance basé sur des informations. Donc, moi, je suis une femme cis parce que quand je suis née, on m'a identifiée femme et je me sens femme. Aujourd'hui, il y a tout un spectre au niveau des identités trans, non-binaires, queer, énormément de nuances, mm-hmm. justement. Et l'information que Mélissa amène, c'est ça, c'est que ces recroisements, tu sais, les petites cases, ben, elles peuvent se superposer. Puis c'est ça qui est intéressant, ces belles petites cases-là. C'est que c'est comme des acétates qui peuvent s'empiler. On est tous et toutes des personnes complexes avec plusieurs identités. Puis c'est important parce que ça va amener différentes couleurs de manifestation. Puis là, tu parlais du twice. Donc là, je me dis, bon, OK, dans ce qu'il y a à aussi placer, neurodiversité, on l'a dit, c'est tout le monde. Des personnes neurodivergentes ou neuroatypiques ou neurominoritaires, c'est des profils qui s'éloignent du fonctionnement neurocognitif, de la norme socialement établie comme étant
comme un cerveau typique fonctionne.
Exactement. Donc, le cerveau neurotypique. Pour la petite histoire la plus courte possible dans ma capacité, les conversations sont très dynamiques et en construction encore au sujet de c'est quoi la neurodivergence. C'est très, très large, la neurodivergence, conceptuellement, mais toutes les personnes en recherche ne s'entendent pas exactement. Donc, il y en a qui vont englober... ce sur quoi on s'entend globalement, là, c'est le TDAH, l'autisme, le syndrome de la Tourette, les profils 10, donc dyslexie, dyspraxie, dysphasie, etc. La douance est de plus en plus communément acceptée. Mm-hmm. Le 2E, donc la double exceptionnalité dont tu parles, c'est de combiner une douance avec une autre condition neurodivergente. Ça va effectivement amener des manifestations plus spécifiques parce que ma dyslexie peut camoufler ma douance ou ma douance peut compenser pour mes défis. Mais on a d'autres auteurs et autrices qui vont englober les troubles de l'humeur, l'anxiété, la schizophrénie même. Donc, il y a toutes sortes de conversations sur le sujet. Là. Donc, c'est de le voir avec beaucoup de relativité et de nuances.
De nuances, oui. Je laisse reprendre ton souffle une seconde. Fran, on fait une courte pause et c'est on revient tout de suite après. De retour à Inclusion Inc., nous sommes avec les cofondatrices de Nuance, Mélissa Saint-Louis et Fran Deloume. Et bon, vous voyez, on a des cerveaux là, qui sont très, très, très boblis et pétillants. Donc, ça démontre un petit peu le défi en milieu de travail de ce type de cerveau-là. Donc, comment les organisations elles peuvent s'adapter au défi de la neurodiversité?
Il y en a beaucoup qui reviennent, comme je disais, à tout ce qui était l'inclusion universelle puis l'accessibilité universelle. Quand on parle de prendre le prisme de la neurodiversité comme angle de traitement à travers tout ça, mais c'est qu'il y a des choses qui vont être nécessaires pour une personne neurodivergente qui peut vivre des situations d'handicap. Puis qu'en bout de ligne, quand je le mets de façon universelle dans l'organisation, mais ça va être bénéfique à pas mal tout le monde rendu là. Je donne un exemple, par exemple. Quand on regarde dans qu'est-ce qu'on peut changer ou améliorer pour assurer que les personnes puissent être bien dans le milieu de travail, mais on peut parler... Puis là, on a des backgrounds similaires, là, mais tu sais, quand on parle de gestion de changement, par exemple, que là, on parle de, bien, il faut implanter des nouveaux processus. Bon, mais les processus sont-ils documentés? Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce qu'on a pensé, tu sais, on va penser à la littératie informatique si on fait une implantation informatique, mais il faut penser à toutes sortes d'autres facteurs à travers tout ça. Donc, dans une organisation, bien, justement, est-ce que cette information-là, elle est digeste, claire, disponible, à jour, pour que les gens sachent où se repérer à travers tout ça? Parce que souvent, ce qu'on peut voir comme enjeu, c'est que justement, bien, si on a une difficulté au niveau de l'apprentissage ou de la mémoire de travail, captation d'informations, puis que là, on est dans une culture très verbale et organique, bien là, je m'attends à ce que la personne, je lui dise qu'est-ce qu'elle a à faire, puis qu'elle prenne toutes les notes en même temps que je lui dis, puis qu'après ça, elle s'en rappelle, puis qu'elle le fasse, puis qu'elle n'ait pas oublié aucun morceau de ce que je viens de lui dire. Puis là, après ça, mais si elle a oublié un morceau, mais ça revient de sa faute parce que je te l'ai dit.
Oui.
Mais ça, pour plusieurs facteurs, puis quand on vient avec quelqu'un en francisation, c'est la même chose aussi, tu sais. Fait comment est-ce que, comme entreprise, on peut avoir des communications plus claires et efficaces à travers nos processus pour qu'en bout de ligne, ben, il y ait moins d'erreurs, qu'il y ait moins d'incertitudes, que si quelqu'un, justement, peut-être qu'il va poser plus de questions, ça devienne une opportunité de clarifier peut-être quelque chose au lieu de le voir comme quelqu'un qui essaie de nous prendre à défaut, là.
Bien, je l'entends beaucoup parce que c'est ça, j'ai une pratique en communication, puis ça repose sur l'empathie. Parce que si on ne sait pas comment l'autre pense, ça devient à la limite de la diffusion. C'est effectivement, je l'ai dit, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a communiqué si on ne sait pas comment l'autre l'a compris.
Exactement.
Et c'est là que s'il y a une multiplicité de types de cerveaux, effectivement, si on a simplement dit des choses puis on s'attend que ça soit fait, comment on pourrait à ce moment-là recadrer notre méthode de travail pour être sûr que la personne a bien saisi?
C'est ça. Puis tu sais, quand on a un seul mode de fonctionnement puis qu'on a toujours fait de la même façon...
Oui, ça, c'est très courant dans les entreprises.
On a toujours fait ça comme ça.
Mais on veut innover, mais on a toujours fait ça comme ça. mais tu sais, de se dire justement que c'est une opportunité de faire les choses différemment. Puis tu sais, un cerveau neurodivergent qui peut avoir une expansion conceptuelle différente, une pensée divergente, donc une façon de réfléchir qui est plus en arborescence, une pensée popcorn, des idées qui sont moins linéaires. Mais après ça, pour le communiquer, oui, il peut avoir cet enjeu-là de traduction entre les deux parties, comme tu faisais mention un peu plus tôt, tu sais. Puis ça demande un effort de toujours traduire comment ça se passe dans notre tête. Puis là, pendant que j'essaie de traduire, pour que l'autre peut-être se rende pas compte que ma tête, elle fonctionne différemment. Parce qu'il y a ces enjeux-là de masking aussi en milieu de travail où, que pour plusieurs personnes neurodivergentes, il y a ce privilège et ce fardeau-là en même temps de pouvoir camoufler.
Oui.
Mais pendant que je camoufle, puis j'essaie de tout traduire puis que je m'assure que personne ne s'en rend compte, bien, je suis brûlée, là.
Oui, l'énergie que ça demande.
C'est ça, je ne suis pas en train de mettre cette énergie-là à être créative, à être innovante, à participer. Je suis juste en train de toujours me tamiser. Bien, l'organisation et la personne n'en bénéficie dans un cadre comme ça, là.
Puis tu sais, même entre deux personnes neurotypiques, là, il y a plein de façons de communiquer. Fait que deux personnes neurotypiques peuvent être différentes, deux personnes neurodivergentes peuvent être différentes. Donc, le seul constat de se dire « Hey, ma façon de communiquer n'est peut-être pas la façon de communiquer de tout le monde », je vais déjà partager la responsabilité de traduire, de vérifier qu'on s'est bien compris, qu'on s'est rejoint à mi-chemin. Mmh. C'est qu'il y a un peu cette prise pour acquis que c'est aux personnes neurodivergentes de constamment traduire et les personnes neurotypiques, ben, elles sont donc le modèle de communication dominant, mais ça, même ça, ça enlève le fait qu'il y a de la variabilité à travers les personnes neurotypiques.
Oui, mais justement, vous utilisez le concept Nova, des couleurs, et on le voit en milieu de travail. Je ne sais pas si on est proche de Insight avec...
C'est la théorie DISC, donc on reprend la théorie des quatre couleurs, effectivement.
Parce qu'on l'utilise dans mon mandat principal, puis il y a tellement de nuances à porter, mais les gens vont dire, mettons, telle personne est tellement rouge, il est tellement bleu. Puis c'est pas toujours clair qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ça, puis comment on arrive à mieux travailler ensemble. On s'entend que la plupart de mes collègues sont assez neurotypiques, mais justement, ils ont... Et là, je me dis, on est déjà dans un effort de se traduire l'un l'autre pour dire, OK, toi, si tu me dis pas bonjour ce matin, c'est pas parce que tu m'aimes pas, c'est parce que... Qu'est-ce que tu veux?
Mais tu sais, puis c'est fou parce qu'on parlait des petites cases tantôt, mais pour moi, c'est un très bel exemple. Quand je facilite des debriefings d'équipe ou individuel Nova, je rappelle toujours, il y a personne qui est juste une couleur. Ouais. On est tous et toutes une combinaison, il y a du contexte, il y a des nuances, il y a plein de choses. Mais on aime ça, les petites cases. Fait que c'est pas tant les petites cases que qu'est-ce qu'on en fait des dites petites cases. Je pense qu'il peut...
C'est une belle nuance.
un enjeu. Mais donc, le Nova, je m'en sers avec énormément de vigilance en ce sens que, on n'a pas de données qui le valident auprès des personnes neurodivergentes. Donc, il faut le prendre vraiment, vraiment avec attention, avec sensibilité. Donc, comment on l'utilise, nous, c'est vraiment comme un outil d'ouverture, de réflexion, de dialogue, d'introspection. Et ce que ça permet, bien souvent, ça ne sert à rien de diagnostiquer, on n'est pas là-dedans, mais c'est de mettre des mots plus neutres. J'ai un fonctionnement qui se rapproche de telle couleur, voici comment ça se manifeste en comportement, en attitude pour moi. Puis on évite de faire des raccourcis, parce que je l'entends souvent, le bleu c'est la couleur autiste, le jaune c'est la couleur TDAH. Ça n'a aucun rapport, aucun. Et on n'a absolument pas de données non plus dans ce sens-là.
Donc, on peut avoir un profil plus autiste et être une autre couleur, que ça s'incarne d'une autre façon.
Mais ça permet de regarder ses préférences cognitives, comportementales, ses motivations avec un langage qui est moins chargé de capacitisme, de déficit, de souffrance.
Ça c'est vient quoi vraiment... du capacitisme?
Ça, c'est Mélissa qui est la pro pour le définir.
Mais c'est tout ce qui va caractériser les préjugés puis les biais à l'encontre d'une personne en situation de handicap. Donc, le capacitisme, c'est de penser qu'une personne en situation d'handicap, elle vaut moins, elle est moins capable d'emblée parce que d'exclure ces personnes-là. Fait que c'est vraiment
C'est cette idée qu'il y a un fonctionnement auquel se ramener, qui est une norme, qui est le bon fonctionnement.
Puis au niveau de peut-être du recrutement, c'est parce que personnellement, justement, mon parcours atypique a fait que souvent les robots de recrutement, mon parcours sortait pas. Puis j'ai une amie qui m'a aidée justement à faire en sorte que mon CV était lu par les robots. Puis je disais, ben tu m'as enlevé toute ma couleur, mon essence. Elle dit, oui, mais ils la verront même pas, tu te rendras pas visible à eux. Ouais. Et comment justement dire, peut-être quelqu'un qui a... En tout cas, l'impression que j'ai, c'est avec le monde dans lequel on s'en va, qui est de plus en plus incertain, on a peut-être intérêt justement à avoir des gens qui pensent autrement parce qu'on arrive à une ère où il n'y a pas de certitude sur rien. Donc, on a toujours fait ça comme ça. On a peut-être besoin de gens qui, justement, vont penser autrement.
Mais puis, c'est pas anodin que le mot neurodiversité soit calqué sur le thème biodiversité. Fait que dans la nature, au même titre qu'on a besoin d'avoir toutes les plantes, les animaux pour avoir un écosystème qui survit, on a besoin de toutes sortes de types de cerveaux pour faire face à ce que l'humanité va faire face au fil des années. Donc, quand on pense toujours de la même façon, mais on fait toujours face aux mêmes situations. Qu'est-ce qu'on fait face à une nouvelle situation? C'est ça. Puis là, quand on parle de processus de recrutement, puis qu'on parle d'inclusion, puis de barrières d'accès à l'emploi, bien oui, on en voit beaucoup pour les personnes neurodivergentes. Il y a du data qui démontre qu'il y a de la discrimination à la fois vécue par les personnes neurodivergentes, mais aussi à travers ce qu'on peut remarquer comme juste d'emblée dans comment la description de poste elle est écrite, comment est-ce que le processus est construit, quelle information est donnée. Puis là, on ne parle même pas encore du processus d'accueil et d'intégration. Là. fait que tu sais, comment est-ce que je décris mon offre d'emploi, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est précis, est-ce que le vocabulaire est accessible ou est-ce que ça a l'air encore là d'une soupe alphabète? Il faut toujours afficher un poste pour hier, hein? Tout le monde est pressé, là. Donc,
moi, je régule tout ce que j'ai à dire parce que j'ai vu le temps.
C'est bon. Oui, bien, il y aurait beaucoup à discuter. Mais j'ai envie peut-être de vous laisser passer un dernier message peut-être aux chefs d'entreprise là, qui cherchent la fameuse perle rare. Hein? On voit ça dans toutes les descriptions de postes. Comment s'ouvrir, mettons, un petit conseil rapido?
Hey, là, là.
OK, on va demander à Mélissa. Moi, j'ai le goût de dire peut-être de l'empathie, tout simplement.
Ben, j'allais dire de l'introspection, de l'empathie. Oui, oui. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas.
Donc,
de rentrer en réelle interaction dans la curiosité, puis d'avoir des bonnes pratiques misées sur les compétences, ben, on va pouvoir voir l'humain et avoir un meilleur fit avec les compétences plutôt que de donner une saveur à notre compétence selon notre perle rare.
Oui. Votre site Internet?
Nuance.com, NUENSE.com.
Bien, je vous invite à aller voir leur site Internet. Vous allez voir un peu l'ensemble des services qui peuvent être offerts à la fois aux entrepreneurs, mais aussi aux gestionnaires et à toute personne qui a à gérer des bébites rares. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode balado d'Inclusion Inc. On se retrouve dans quelques semaines. Au revoir.
Merci.